Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat consacré ce soir au rôle de la France au Rwanda dans les années 1990. À l'ordre du jour ce soir, Rwanda qu'apporte le rapport Duclert à la connaissance du génocide des Tutsis. En ce jour anniversaire du début, en 1994, du génocide des Tutsis du Rwanda, nous nous arrêtons sur le rapport remis il y a 10 jours au président de la République par l'historien Vincent Duclert au nom de la commission qu'il présidait. Un rapport qui considère que la France n'est pas complice du génocide, mais dénonce ses responsabilités lourdes et accablantes, je cite, ainsi que l'aveuglement continu des responsables politiques français, au premier chef desquels se trouve, bien sûr, le président de la République d'alors, François Mitterrand. Au point que le rapport Duclert voit dans cette aventure militaire la dernière défaite impériale de la France. Pour autant, certains lecteurs de ce foisonnant rapport de plus de 1000 pages considèrent qu'en chargeant l'entourage présidentiel, il exonérerait l'état-major des armées, mais aussi le gouvernement de cohabitation de certaines de leurs responsabilités. Nous avons proposé à 3 lecteurs, une rescapée du génocide, un historien et un militaire qui fut engagé dans l'opération turquoise, de nous donner leur regard sur les apports et sur les manques de ce travail d'histoire. Avec nous ce soir, le général Patrice Sartre. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes général 2 étoiles de l'armée française, commandant du RICM, le régiment d'infanterie char de marine, au sein de l'opération turquoise, justement, au Rwanda en 1994. Avec nous, Stéphane Audin-Rouzeau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, spécialiste de la Grande Guerre, professeur à l'école des hautes études en sciences sociales, et vous avez publié au Seuil en 2017 un livre qui s'intitule « Une initiation, Rwanda 1994-2016 », dans lequel vous racontez comment vous vous êtes plongé dans cette histoire du génocide des Tutsis du Rwanda. Et avec nous, une rescapée du génocide des Tutsis, Jeanne Allaire Kayigiroua. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de l'association Ibuka, donc, qui milite justement pour la reconnaissance de ce génocide au Rwanda, mais également en France. On en discutera avec vous.
À la fin du génocide, le Rwanda, en novembre 1994, il n'y a pas un pays qui est aussi brisé dans le monde que le Rwanda dans l'histoire. Eh bien, le Rwanda n'est pas invité au sommet de Biarritz, c'est quand même un affront terrible, hein, il faut le reconnaître. Et François Mitterrand, apparemment, ce qu'il a dit à l'oral n'est pas tout à fait la même chose, mais bon, le texte écrit fait foi, il dit que la France n'est pas responsable, je cite, des chefs locaux qui décident délibérément de conduire une aventure à la pointe des baïonnettes ou de régler des comptes à coups de machette. Aucune police d'assurance internationale ne peut empêcher un peuple de s'autodétruire. Mais ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas des Hutus extrémistes qui massacrent des Tutsis et des Tutsis extrémistes qui massacrent des Hutus. Non, pas du tout. C'est un génocide contre les Tutsis.
Voilà, vous avez peut-être reconnu sa voix. C'était l'autre jour sur France Culture, au matin de France Culture. Et il s'agissait de Vincent Duclert qui a dirigé cette commission de recherche des archives françaises sur le génocide des Tutsis du Rwanda. Il était interviewé par Guillaume Erner le lundi 29 mars. C'était une exclusivité pour France Culture que cet entretien. Vous avez été surpris les uns et les autres par le contenu de ce rapport. D'abord, Stéphane Audin-Rouzeau, peut-être avec vous, puisque vous êtes engagé dans cette histoire du génocide des Tutsis depuis un certain temps, qu'on avait entendu parler de vous au tout départ de cette initiative, puisque votre nom, comme le nom d'une autre historienne, Hélène Dumas, avait été visiblement biffé pour ne pas participer à cette commission. On ne savait pas très bien ce qu'il y aurait dans ce rapport. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous-même ?
Eh bien, en fait, deux choses. Surpris par le contenu, non. Le rapport, monte sur les épaules, si je puis dire, de toute une historiographie, de rapports précédents qui avaient souvent leurs qualités, hein, avec leurs défauts, bien sûr, de toute une série de témoignages. Le rapport, évidemment, n'est pas parti d'une table rase. Il est parti de tout un socle de connaissances accumulées, sédimentées. Il ne le dit pas, mais à dire vrai, sans cet apport, il n'aurait pas pu questionner les archives. Et le rapport n'amène pas une connaissance radicalement nouvelle. Il accroche des connaissances nouvelles à un ensemble de connaissances déjà acquises.
Avec de nouvelles archives.
Il les enrichit avec des archives nouvelles, il les enrichit, il les précise. Il y a des pépites tout à fait extraordinaires, hein, dans ce rapport. Voilà, c'est une première chose. Ensuite, sur la tonalité du rapport, bien évidemment, je ne savais pas quelle serait cette tonalité. La commission était une commission tout de même autorisée, avec des gens qui avaient eu le droit d'y entrer et d'autres qui, moi-même par exemple, qui n'avaient pas eu le droit d'en faire partie, de la volonté du cabinet du président de la République, de la cellule Afrique en particulier. Mais son président, ses membres se sont arrachés, si je puis dire, de cette configuration de commission autorisée pour faire un rapport dont la tonalité est dure. Et ça s'est évidemment immédiatement senti dans la conclusion, et ça se sent à l'intérieur du rapport. Ça ne veut pas dire que le rapport soit parfait, d'ailleurs la commission le reconnaît, suggère des travaux supplémentaires. Il est très bon sur certains points, plus faible sur d'autres. Il n'empêche que l'important, c'est sa tonalité d'ensemble qui ouvre une brèche dans le déni français, et c'est cette brèche qui est importante et qu'il faut saluer.
Général Sartre, il est toujours délicat de se voir représenté, et tous les acteurs de l'histoire le savent, dans un livre d'histoire ou dans un rapport qui a pour mission de faire l'histoire d'une histoire que vous avez vous-même vécue. Néanmoins, vous avez voulu, dans Le Monde, c'était le 30 mars, donc donner votre lecture justement de ce rapport Duclert, considérant, puisque vous avez participé à cette opération turquoise en 1994 au Rwanda, qu'il y avait là des réponses aux questions que vous vous posiez vous-même lorsque vous étiez sur le terrain.
Oui, c'était d'ailleurs pas la première réaction que j'ai eue et que certainement beaucoup de mes camarades ont eue. La première réaction, là je m'adresse à l'historien qui est parmi nous, ça a été la surprise pour quelqu'un qui a vécu les événements, de lire un récit qui correspond à peu près à ce qu'on a vécu, à la réalité, on s'y retrouve très bien, je parlerai du fond ensuite, mais dans lequel il manque, par construction, des éléments essentiels. En 94, je suis à un niveau modeste de responsabilité, je commande un régiment, et c'est-à-dire que presque tout ce qui se passe autour de moi, en tout cas tout ce qui se passe à mon niveau et au niveau d'en dessous, est verbal et oral, donc n'apparaît absolument pas dans le rapport, sauf une vidéo et mon compte-rendu final. Et donc, quand on est un ancien acteur d'une affaire comme ça et qu'on lit le rapport, on se dit « mais c'est incroyable ce qui manque à la vérité ». Bon, et pourtant, et là j'en viens au fond, et pourtant il nous a énormément apporté, parce que, comme vous l'avez dit, on s'était posé des questions. À vrai dire, on ne s'était pas posé beaucoup plus de questions après Turquoise qu'après la plupart des opérations. Les opérations, ce sont toujours des situations très compliquées, très difficiles, dans lesquelles on essaye de se dépatouiller. Mais on s'était quand même posé des questions. Mon futur après Turquoise m'avait obligé à m'y intéresser, en particulier la mission parlementaire. Et beaucoup de ces questions étaient restées, sinon sans réponse, du moins sans preuve de mes réponses. Et évidemment, comme je l'ai écrit dans ma tribune, le rapport confirme, pas tout d'ailleurs, pas toutes les réponses que j'avais données, donne des preuves à un certain nombre d'entre elles et en corrige d'autres. C'est effectivement un moment extrêmement intéressant que j'ai essayé de restituer dans cette tribune, effectivement.
Oui, en particulier, vous parlez effectivement des rapports avec la tutelle politique, justement, du militaire que vous êtes pendant cette période. C'est vrai que c'est une question extrêmement importante que celle-ci. On va y revenir avec Stéphane Rodin-Rousseau et avec vous-même. Jeanne Allaire Caillé-Guirlois, qu'est-ce que vous avez lu dans ce rapport volumineux qui vous rappelle malheureusement le génocide que vous avez connu vous-même en tant que vous êtes rescapé du génocide des Tutsis. Vous avez perdu une grande partie de votre famille dans ce génocide. Qu'est-ce que vous avez lu qui vous a intéressé, interpellé, surprise ou pas?
Alors, je ne peux pas dire que j'ai lu pour le moment les 1200 pages, mais on a essayé de s'informer autant qu'on pouvait dans notre association Ibuka. Et nous, notre sentiment, en tout cas, une chose qu'on peut saluer, c'est clairement le fait qu'il y a des mots qui soient posés, une conclusion claire et nette qui vient confirmer ce que nous avons toujours reçu, ce que nous attendions toujours, c'est confirmer la responsabilité lourde et accablante de l'État français de l'époque. Mais pour autant, nous considérons que c'est un pas qui n'est peut-être pas petit, mais c'est un pas. Notre déception, si je peux dire, concerne le mot aveuglement, parce qu'une fois qu'on a dit qu'il y a des responsabilités lourdes et accablantes, nous supposons qu'on ne peut pas en même temps utiliser le terme aveuglement, parce que justement, en tant que témoin et plutôt victime et survivante, comme vous l'avez souligné, nous avons vécu dans un pays qui était raciste. Dès l'école primaire, on était sommé de nous mettre debout pour dire qu'on était Tutsi. On n'avait pas, pour les adultes, on n'avait pas le droit d'accéder à certains métiers. Il y avait des pogroms. Le gouvernement de Habyarimana, en tout cas l'État de Habyarimana, sous régime, a organisé, a planifié un génocide. Et on sait par ailleurs que les informations remontaient jusqu'à Paris. C'est pour ça que nous ne pouvons pas accepter qu'on utilise le terme aveuglement. Et puis ensuite, pour finir, le mot complicité que nous requisons aussi, parce que nous considérons qu'aujourd'hui, ça sera au juge de le trancher. Et puis, j'en finis là. Puisque ce rapport a été commandé par le président de la République, et maintenant, nous, ce que nous demandons, c'est qu'est-ce qu'il va en faire pour justement arrêter tout ce discours ambigu qui nous blesse et continue.
On va peut-être attendre demain, peut-être y aura-t-il une déclaration du président de la République, justement, en cette occasion du jour anniversaire du début du déclenchement de ce génocide des Tutsis au Rwanda. D'ailleurs, une des vertus ou un des intérêts de ce rapport, c'est de remonter assez haut dans le temps pour pouvoir raconter comment, avant cette date de 1994, il y a une installation de la France, pourquoi la France a voulu s'installer dans cette colonie qui était traditionnellement une colonie belge, et pourquoi elle a considéré, sous l'égide du président de la République de l'époque, François Mitterrand, que c'était là une ligne de front idéologique, une ligne de front linguistique, une ligne de front qu'il fallait défendre et pour laquelle il fallait s'installer en tant que force française avec des militaires sur place.
Oui, ce que le rapport m'a beaucoup apporté, c'est qu'il m'a montré, prouvé de manière irréfutable que le président de la République lui-même, qui passait pourtant pour un intellectuel, que son secrétaire général Hubert Védrine, qui passe pour un expert en géopolitique, et il faut voir l'intensité avec laquelle il est invité sur cette antenne, et puis le général Quesnot, et puis son chef d'état-major particulier, et Bruno Delay, le conseiller Afrique, eh bien, comment tout ce monde, effectivement, perçoit ce Rwanda dans lequel la France joue un rôle, évidemment, croissant à partir de 90, eh bien, comment ce Rwanda est vu avec des lunettes de la fin du 19e siècle. Ce qui caractérise ce monde-là, et en particulier François Mitterrand et Hubert Védrine, c'est tout simplement leur ignorance, une ignorance crasse de ce qu'était le Rwanda de la fin du XXe siècle. Ils le voient avec les lunettes néocoloniales de la fin du XIXe, début du XXe siècle, l'ethnisme, la haine séculaire des ethnies contre lequel on ne peut pas faire grand-chose. Cette inculture a permis que se cristallise un système de représentation qui a ensuite c'est traduit par toute une série d'erreurs littéralement mortelles. Et elles ont été étanches à toute objection, y compris venant des services de l'État. Alors c'est une question que j'aurais voulu poser, si vous me le permettez, Emmanuel Laurentin. Il y a une question que j'aurais voulu poser au général Patrice Chartres, justement, sur cet aveuglement. Dans cette tribune pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, vous le savez, mon général, vous dites, compromise dans cette direction politique pervertie, la direction stratégique ne tentera pas d'y échapper, elle organisera l'ambiguïté dans les responsabilités, conduisant à des ordres insincères, tant dans la description de la situation que dans l'énoncé des missions. Qu'avez voulu dire exactement, mon général, dans cette phrase qui me paraît déterminante?
J'ai voulu dire à peu près ce que vous avez sous-entendu. D'abord, je voudrais faire une remarque sur le président Mitterrand et le 19e siècle, parce que la phrase que vous venez de prononcer sur le président Mitterrand pour laquelle j'ai l'admiration intellectuelle que vous, à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure. Cette phrase, vous auriez pu la prononcer sur ce que j'avais vécu un an et demi avant à Sarajevo. Car
absolument,
nous étions partis à Sarajevo sur des raisonnements du président Mitterrand qui étaient également extrêmement marqués par l'histoire de la période à laquelle vous faites allusion. C'est peut-être de
votre... L'amitié avec la Serbie éternelle, par exemple.
L'alliance avec la Serbie de la guerre de 14.
Et alors, je dirais c'est de votre faute, les historiens. Il vous a trop lu, le président Mitterrand.
Non, mon général. Non, c'est sa formation de jeunesse qui s'ancrait dans l'extrême droite maurassienne et qui, au fond, à la fin de sa carrière politique, au fond, c'est là-dedans que ses racines les plus profondes puisaient.
Et ça, c'est d'une analyse psychologique dont vous n'avez pas beaucoup de preuves.
C'est une analyse politique. Sur d'analyse politique, qu'il s'agisse de la réunification de l'Allemagne, de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda, le président Mitterrand datait d'un siècle.
Et pour vous, donc, général Patrice Sartre, quand vous vous retrouvez sur place, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de se retrouver sur place, comme vous l'avez été, avec votre régiment d'infanterie char de marine. Vous vous êtes retrouvé sur place au moment de Turquoise, en 1994. Qu'est-ce que l'on sait lorsqu'on est envoyé sur un théâtre d'opération comme celui-ci? Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez une sorte de, j'imagine, de bréviaire, de là où vous allez agir, là où vous allez travailler. Et donc, on vous l'explique justement avec la grille de lecture qui ressort de ce rapport Duclerc, c'est-à-dire un conflit séculaire entre des ethnies africaines qui se détestent, des majoritaires qui sont au pouvoir depuis un certain temps, qui sont menacés par des minoritaires, des Ougandos Tutsi ou des Ougandos FPR, comme on trouve dans les archives qui ont été récoltées par ce rapport Duclerc. Qu'est-ce qu'on vous en dit, en l'occurrence, général Patrice Sartre?
Alors, en fait, on nous en dit peu pour différentes raisons. D'abord, il n'y a pas de culture du Rwanda dans l'armée française, en dehors des quelques unités qui avaient participé aux opérations Norrois. Le Rwanda était totalement inconnu. Moi, j'avais un ou deux camarades, deux, si je me souviens bien, de promotion à Saint-Cyr, qui venaient du Rwanda, et un autre du Burundi, mais nous, c'est une région que nous ignorions complètement. Et je ne pars pas de France pour aller au Rwanda, je pars de Centrafrique, où je suis prépositionné. Et à l'époque, les préoccupations... d'intervention, assez curieusement, ne portait pas du tout, en tout cas celle qu'on m'avait transmise, sur le Rwanda, mais portait sur le Burundi. On craignait d'avoir à faire une évacuation de ressortissants à Bujumbura, et j'ai préparé ça à fond. Je connaissais toutes les rues de Bujumbura absolument par cœur. Et le Rwanda, nous le connaissons très, très, très mal. Les unités qui sont venues nous renforcer de France ont été un peu mieux briefées, puisque elles ont pu avoir des contacts avec l'état-major avant de partir, mais nous le connaissons très mal. Et ce que je veux exprimer pour répondre à la question de monsieur Audouard Rousseau, ce que j'ai voulu exprimer, ça a été notre surprise entre ce que nous comprenions de la situation à travers les ordres que nous avions reçus et ce que nous avons découvert. Il y avait effectivement un décalage, je ne dirais pas une contradiction, mais un décalage. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en opération, ce genre de décalage n'est pas exceptionnel. Mm-hmm. Mais enfin, là, il y avait un décalage qui portait, ça a été très bien soulevé par le rapport Duclerc, sur le fait que la situation nous était présentée comme une confrontation de gens dont on pouvait supposer que les deux camps étaient armés et que donc une ethnie, je sais les doutes qui portent sur le terme, mais qu'une ethnie s'affrontait à une autre. Et évidemment, Vincent Duclerc vient de le dire très bien dans ce que vous avez rappelé, c'était une toute autre situation que nous avons relativement rapidement perçue, aidée d'ailleurs par vos camarades journalistes.
Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on apprend en vous lisant, en l'occurrence, c'est que vous apprenez beaucoup de choses, et je vais donner ensuite la parole à Jeanne Allaire-Cailly-Guerrois. Vous apprenez beaucoup de choses des journalistes qui sont sur place, c'est-à-dire que vous êtes militaire et vous êtes comme plus d'une certaine manière un peu aveugle de ce qui se passe, et il faut que les journalistes aillent un peu aux alentours, vous ramènent des informations, ils vous disent il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, pour que vous puissiez mettre à jour le logiciel qui vous permet d'être sur place et d'agir.
Oui, enfin là, vous en rajoutez un peu par rapport à ce que j'ai écrit. Mais
enfin, j'ai compris cela. C'est un éloge du métier de journaliste.
Oui, tout à fait. Nous aussi, nous promenons, nous interrogeons et nous comprenons. Mais ça n'est pas du tout exceptionnel que les journalistes et les journalistes de guerre, entre guillemets, sont souvent des amis, des camarades. Les deux tiers de ceux qui étaient au Rwanda, je les avais rencontrés un an et demi avant à Sarajevo. Et nous avons beaucoup d'admiration pour ces baroudeuses baroudeurs de l'info, comme on les avait appelés à l'époque. Et ils nous apportent effectivement des informations extrêmement souvent, et elles sont souvent très pertinentes. Ouais. Et là, ils ont beaucoup contribuer à nous déceler très vite sur la réalité de la situation, c'est vrai.
Jeanne Allaire-Cailly-Guerrois, vous vouliez réagir, excusez-moi.
Oui, je voulais juste souligner ce décalage entre la réalité qui poussait à la confusion entre les victimes et les bourreaux, pour dire que pour nous qui étions sur place, on a beaucoup de mal à voir comment on peut confondre les deux. Si on prend l'exemple d'Obusesero, qui est cette région en plaine turquoise, on sait que quand on est pourchassé depuis un mois, on est affamé, sale, fatigué, amaigri, et qu'en face, on a des gens qui se portent très très bien, parce que, je précise, que quand même, ils ont mangé également nos vaches au-delà de nous tuer. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui nous dérange, nous, quand on n'entend qu'on pouvait confondre les deux.
Bien sûr, effectivement, c'est une des questions Bicicero. Il faut peut-être que vous expliquiez, Stéphane Audouin-Rousseau, brièvement à nos auditeurs ce dont il s'agit. C'est une colline, effectivement, en pleine zone d'intervention de l'opération turquoise, sur laquelle ont été massacrés des centaines, voire des milliers de Tutsis du Rwanda, qui n'étaient pas des forces du FPR, donc supposées agresser le Rwanda de Habyarimana, mais qui étaient simplement des Tutsis de la région qui s'étaient réfugiés sur cette colline.
Oui, c'est une colline que j'ai visitée d'ailleurs, et donc j'ai pu rencontrer les survivants, que j'ai visité à fond, rencontrant les survivants. Oui, c'est une colline qui est découverte par effectivement les éléments avancés du COS, du commandement des opérations spéciales, qui semble ne pas comprendre très bien, ou plus exactement qui comprend dans un premier temps ce qui se passe, qui essaye d'alerter, qui demande, faute de pouvoir obtenir une intervention immédiate, qui demande évidemment, qui dit aux survivants, épuisés, comme le dit Jeanne Allaire, épuisés, blessés, pourchassés après une défense extraordinairement courageuse, mais qui a été dispersée par l'arrivée de l'armée et de moyens de combat lourds, à qui on dit il faut que vous patientiez un peu, on va revenir, mais le retour s'est fait un peu par hasard, par un détachement qui semble-t-il s'est volontairement perdu pour pouvoir porter secours, ce qui fait qu'on porte secours finalement efficacement d'ailleurs, dans la nuit du 30. Dans la nuit du 30 juin, tout ça a été filmé longuement par les opérateurs de l'ECPAD. Ce sont des images insoutenables dont rencontre, et c'est passionnant, le rapport Duclerc sur ce point, et je ne savais pas que ces images existaient. Et hélas, en ces trois jours, les tueurs ont compris que les Français allaient revenir. Ils ont achevé le travail, comme ils disaient, puisque c'était le terme. Le nombre de rescapés est infime par rapport à ceux qu'on aurait pu sauver en cas d'intervention immédiate. C'est un des plus grands échecs de Turquoise. Et d'ailleurs, j'observe que dans sa tribune, le général Sartre parle de cet échec et considère que la mauvaise qualité, si je puis dire, des ordres et de ce qu'il y a derrière les ordres, c'est-à-dire des représentations de ce qui se passe, explique cette tragédie, peut-être qu'il y revenir.
Général Sartre, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez intégré justement ce lieu de Bicécéro avec ce massacre de milliers de Tutsis? Vous dites la plus douloureuse de nos interrogations de fin de mission portait bien entendu sur les dysfonctionnements qui ont permis le massacre de milliers de Tutsis à Bicécéro dans l'ouest du Rwanda. Ça reste comme une sorte de tâche, de regret de votre part, justement, que cette mission qui se voulait une mission humanitaire, la mission turquoise, se soit soldée par ce massacre de milliers de Tutsis à Bicécéro.
Ben oui, forcément, nous avons une mission et elle débute par des erreurs qui ont des conséquences dramatiques au regard même de ce qui nous est prescrit dans la mission. J'aime bien le terme que vient d'utiliser Stéphane Audouin-Rousseau et je m'en veux de ne pas l'avoir utilisé dans ma tribune. C'est exactement ce qu'il dit, c'est un problème de représentation. Nous arrivons là avec une représentation de la situation qui est fausse. Et tant que nous n'avons pas corrigé cette représentation, nous faisons des erreurs. Malheureusement, moi, Bicécéro m'a été confié immédiatement après le 30. C'est quand les plus gravement blessés avaient été évacués. Mais malheureusement, ceux qui étaient avant, mes camarades des opérations spéciales qui étaient avant, me semble-t-il, n'ont pas eu ces trois jours d'évolution de leur représentation et donc n'ont pas compris assez vite dans quelle situation réelle ils étaient. Je dois dire que, avant d'avoir lu Duclerc, je ne savais pas exactement ce qui s'était passé et pourquoi. C'est en lisant son rapport que je l'ai correctement compris.
Oui, puisqu'on parlait d'erreurs, mon général, vous dites à un moment que vous-même avez commis des erreurs, ce qui me paraît d'une particulière honnêteté, alors que tant de vos camarades d'armes refusent cette idée d'avoir commis des erreurs dans une défense frontale de leur action que vous dénoncez d'ailleurs. Quelles erreurs, personnellement, pensez-vous avoir commises? Je précise que je ne cherche nullement à vous accuser, bien au contraire.
C'est pas une question d'honnêteté, parce que les erreurs que nous avons faites, heureusement, à conséquence bénigne, mais enfin, symboliquement graves, n'ont pas eu de conséquences graves. Mais, par exemple, il nous a été très fortement reproché d'avoir eu des contacts avec les autorités locales. Et pourquoi nous avons eu ces contacts? Pour différentes raisons, mais parce que c'est une règle habituelle pour une troupe dite occupante, car c'est ce que dit le droit international, d'essayer de s'appuyer sur les autorités locales, sauf si elles vous ont été dénoncées, évidemment, comme ennemie ou comme dangereuse, pour mettre le désordre minimum dans la population où vous vous trouvez et au contraire aider le plus possible cette population à survivre.
Or, ces autorités locales avaient une responsabilité dans ce qui est en train de se dérouler. C'est ce que vous voulez dire, Général Sartre.
Et or, ces autorités locales, là aussi d'ailleurs nous l'apprendrons essentiellement par les journalistes, et par la fuite des autorités, parce qu'en réalité, on n'a pas eu de relation très longue avec elles. 4 jours après notre arrivée, elles étaient parties. Mais enfin, ces autorités locales étaient des conducteurs du génocide, incontestablement. Et les conséquences, comme je l'ai dit, n'ont pas été graves, bien sûr. Mais l'impact, d'abord sur la population Tutsi, de nous voir discuter avec eux et ensuite sur l'analyse qu'a pu avoir la presse, qu'ont pu avoir les ONG, a été vraiment extrêmement négatif pour notre action, bien entendu.
Jeanne Allaire, Kayigawa, vous voulez réagir à ce que vient de dire le général Sartre et ce que disait auparavant Stéphane Audouin-Rousseau sur cette méconnaissance, cette arrivée de soldats français qui ne connaissent pas bien le terrain sur lequel ils sont et qui font des analyses faussées avant de les corriger au fur et à mesure de l'apprentissage qu'ils ont sur le terrain.
Ça, bien évidemment, on peut comprendre. On n'est pas spécialiste de tous les coins du monde. Et par contre, la question que nous posons aujourd'hui, ce n'est peut-être pas Monsieur Sarp d'y répondre, c'est la chaîne des responsabilités. Nous n'avons pas la capacité, ni probablement le temps, d'attendre que un jour cette histoire soit résolue. Nous aimerions savoir ce qui s'est passé pour que, en effet, il n'y ait pas les bonnes informations. Et c'est là où la question de justice pour nous est importante. Nous voulons savoir quelles sont les responsabilités, quelles sont les personnes qui sont responsables de ces désinformations, volontaires ou non, pour qu'elles puissent expliquer et que pour nous, ça soit clair, on ait des réponses par rapport aux gens que nous avons perdus. Parce qu'au fait, encore une fois, nous ne sommes pas dans la même temporalité. L'histoire va s'écrire, mais nous ne sommes pas éternels. Nous avons besoin de réponses, de justice, de compréhension de ce qui s'est passé qui font qu'on a perdu les nôtres.
Stéphane Audin-Rousseau.
La question que pose Jeanne Allaire est évidemment déterminante. Elle est déterminante pour tous les rescapés. Un rescapé, d'ailleurs, dont je précise que la CNLG au Rwanda va mettre sur pied, à partir de demain, un message par jour, hein, que l'on pourra entendre sur son téléphone, ce qui montre, et pour les rescapés de France, d'ailleurs, du Rwanda, ce qui montre une sollicitude particulière actuellement dans cette période des 100 jours, car le deuil ne se limite pas là-bas, au jour du 7 avril. Alors cette intentionnalité, cette complicité effectivement, et cette pose les historiens ont dit ont refusé ce terme de complicité
dans le rapport
en disant rien n'indique une intentionnalité génocidaire des autorités françaises. On s'en doutait. La France n'a pas voulu un génocide par gouvernement génocidaire africain, rwandais, interposé.
Exactement, si l'on entend par là une volonté de s'associer à l'entreprise génocidaire, rien dans les archives consultées ne vient le montrer.
Mais, c'est une réaction d'historien que je comprends très bien.
Vous l'êtes vous-même.
Les historiens ne sont pas des juges, jamais. Mais ensuite, un travail judiciaire est possible. Et les assemblées de réaction de spécialistes de droit pénal international, il n'y avait pas de spécialistes de droit pénal international dans la commission, il y avait des juristes, mais pas des spécialistes de cela, ont souligné, à juste titre, qu'il peut y avoir complicité de crimes contre l'humanité sans que ceux qui seraient coupables aient eu une intentionnalité ou une connaissance de l'intentionnalité de ceux qu'ils ont aidés, de ceux qu'ils ont soutenus. La question, c'est au fond la nature, la profondeur de cette aide et de ce soutien. Et de ce point de vue, il me semble que le rapport Duclerc laisse place à un processus judiciaire. Je souhaite personnellement qu'il ait lieu, car on ne peut pas laisser les responsables continuer de parader comme ils le font aujourd'hui sur toutes les chaînes et sur tous les plateaux. C'est littéralement intolérable, civiquement, politiquement, moralement et éthiquement.
Alors, à propos d'éthique, Général Sartre, vous concluez votre article dans Le Monde, donc votre tribune dans Le Monde, il y a quelques jours, par cette phrase qui m'apparaît extrêmement intéressante et très importante. Une éthique de la direction politico-militaire des opérations de la France reste à inventer. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire, une éthique de la direction politico-militaire des opérations de la France? On ne l'aurait pas, cette éthique, alors que nous intervenons, et nous sommes un des pays qui intervenons le plus fréquemment à l'extérieur de nos propres frontières. Les OPEX sont nombreuses quand on est un soldat de l'armée française.
Oui, je voudrais juste d'abord répondre à Jeanne sur et à Stéphane Audouin sur les problèmes d'intentionnalité. L'intentionnalité est un mot qui moi me fait frémir parce que les 2 mois que nous avons passés là-bas, nous n'avons eu absolument qu'une intention, c'était de sauver, malheureusement, c'était trop tard pour la plupart, de protéger, là il y en avait à protéger, et d'aider les victimes. C'est-à-dire que l'idée, que je comprends très bien, hein, que des soldats français, en tout cas de l'opération turquoise, puisque c'est ce que j'ai vécu, aient pu avoir d'autres intentions, non seulement mes étrangères, mais me peinent profondément pour mes soldats. Car, au contraire, s'ils ont été, comme moi, navrés de l'échec de Bicicero, c'est parce qu'ils n'étaient venus que pour protéger. Comme d'ailleurs, ça avait été leur mission à Sarajevo un an et demi après.
Je partage tout à fait votre point de vue, mon général, et je ne souhaitais surtout pas mettre en cause, si vous voulez, hein, de ce point de vue, les soldats de Turquoise qui ont été très mal engagés par le pouvoir politique. On pourra poser le rapport ne parle pas suffisamment des dimensions opérationnelles, il faudra le regarder de près, mais la responsabilité primaire de ce qui s'est passé n'est pas dans l'armée, elle est évidemment dans le pouvoir politique, elle est à l'Élysée, on ne le dira jamais assez.
Alors justement, cette éthique de la direction politico-militaire qui manquerait, selon vous, le général Sartre, ça voudrait dire qu'il faudrait tirer les leçons de ce qui s'est passé au Rwanda pour, d'une certaine façon, ne pas avoir à reproduire ce type de situation, c'est ce que vous voulez dire ?
Je crois que ce que le Rwanda nous a montré, c'est que, alors que nous sommes formés sur le droit de la guerre, l'éthique de notre comportement dans l'exécution de nos missions, le code de la défense nous interdit d'exécuter un ordre illégal. Donc la dimension éthique existe absolument. Il y a quelque chose que nous n'avions jamais réalisé, c'est que une chaîne hiérarchique déréglée peut, tout en donnant des ordres tous parfaitement éthiques, aboutir à un résultat qui est jugé, à tort ou à raison, comme non éthique en finale. Et que donc, cette chaîne de commandement, le résultat éthique d'une chaîne de commandement est à regarder globalement. Et ça, nous ne l'avions jamais perçu avant. Peut-être que les leçons des guerres de décolonisation auraient pu aboutir à des conclusions identiques. Mais enfin, dans ma génération, qui commence à être un peu âgée aujourd'hui, ça ne nous était jamais arrivé. Nous n'avions jamais été en face de ce dilemme. Et je pense qu'il faut que nous le regardions en face et que nous améliorons nos procédures dans ce domaine.
Et vous pensez que vos collègues qui se sont retrouvés sur le même théâtre d'opération, vous avez à avoir des discussions sur cette question-là, très brièvement, général Sartre, est-ce que vous pensez qu'il y a le même intérêt justement pour pouvoir faire le compte de ce qui a été fait sur ce terrain que vous avez parcouru vous-même ?
Vous voulez dire les
militaires qui étaient engagés avec vous à même niveau de responsabilité, est-ce qu'il va y avoir un débat au sein de l'armée autour de ces questions ou est-ce que vous pensez que c'est un débat qui est difficile, voire impossible ?
C'est évidemment un débat qui est très difficile parce que, je pense que nous avons mal géré sur le plan de communication des attaques qui étaient outrancières à notre égard et qui ont provoqué un réflexe d'ulcération, un réflexe d'amertume qui rend l'introspection beaucoup plus difficile.
Merci beaucoup, général Sartre. Merci d'avoir accepté la discussion avec Stéphane Andouan-Rozou et avec Jeanne Allaire-Cailly-Guirois qui, je le pense, comme beaucoup d'autres rescapés ce soir, vont réfléchir à ce qui s'est passé pendant ce génocide des Tutsis du Rwanda. C'est un moment, long moment, le moment des 100 jours, effectivement, où l'on revient justement sur cette expérience terrible que vous avez connue les unes et les autres. C'était le temps du débat. Rémi Bay, Adèle Rosier, Fanny Richer, Hugo Boursier, Bruno Barada, Laurie Vachon à la technique et Alexandre Manzanares à la réalisation.